Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cinéscopie, l'émission du cinéma et de la musique de film, une émission proposée et animée par Laurent Craven et Chris Lucas. Tous les lundis soirs à partir de 20h45, c'est l'actualité du cinéma, du support physique également, DVD, Blu-ray, et l'actualité de la musique de film. Alors nous commençons cette émission un petit peu triste, puisque vous l'avez appris certainement aujourd'hui en écoutant les médias. Un cinéaste américain, qui est cher à notre cœur d'ailleurs, a disparu dans des circonstances assez troubles. Il s'agit de Rob Reiner, avec son épouse d'ailleurs, qui ont été retrouvés morts à leur domicile. Victime a priori d'un homicide. Et d'ailleurs ce soir, Nick Reiner, le fils de Rob Reiner, est en garde à vue. Il est suspecté d'avoir assassiné ses parents. Donc pour l'instant, évidemment, on n'en sait pas davantage. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ben voilà, Rob Reiner avait été né en 1947. Il nous quitte donc à l'âge de 78 ans. Et c'est le fils d'un acteur, réalisateur, Carl Reiner. Alors Carl Reiner qui avait fait un film assez sympathique dans les années 80 qui s'appelait Les cadavres ne portent pas de costard, qui était un hommage au film noir assez désopilant avec Steve Martin dans le rôle principal. Alors Rob Reiner lui aussi a donné dans ce registre de la comédie et il a réalisé un film culte de la comédie américaine, Quand Harry rencontre Sally, avec notamment Meg Ryan. Voilà, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'il a œuvré dans la comédie mais dans des genres assez différents, puisqu'on lui doit deux des meilleures adaptations de Stephen King sur le grand écran, à savoir Stand By Me et puis Misery. Voilà, deux très belles adaptations. Également un film de tribunal, je crois que ça s'appelait Des Hommes d'honneur avec Jack Nicholson, et puis un film, une sorte de conte de fées revisité, c'était Princess Bride avec Robin Wright, dont c'était peut-être le premier grand rôle au cinéma. Robin Wright qui avait commencé sa carrière à la télévision, vous vous en souvenez, dans Santa Barbara, le soap opéra. Et puis dans ce Princess Bride, il y avait aussi Peter Falk, et puis la musique de Mark Knopfler, voilà, qui était tout à fait sublime. Donc Rob Reiner, voilà, il va rester quand même dans nos mémoires et dans l'histoire du cinéma, ne serait-ce que pour ces films-là, et en particulier, en ce qui me concerne, moi j'aime beaucoup Misery et Stand By Me, qui sont pour moi deux films cultes, et voilà, et donc c'est Rob Reiner qui a fait aussi parfois l'acteur. Alors, voilà, donc a priori, Nick Reiner se serait disputé avec ses parents ce week-end, c'est ce qui aurait peut-être conduit à ce geste fou, mais bon, apparemment le fiston aurait été sous l'emprise de quelques substances illicites. Il avait des problèmes d'addiction a priori, Nick Reiner, donc je ne sais pas si c'est ça, je ne veux pas en rajouter. On va laisser, comment dire, la justice faire son travail. En tout cas, on est vraiment un peu choqué ce soir et attristé par la disparition de ce réalisateur américain, Rob Reiner. On en reparlera bien sûr dans notre émission. Voilà, en tout cas, c'est Rob Kinescopie pour une nouvelle émission. Voilà, on se retrouvera d'ailleurs aussi théoriquement lundi prochain, ce sera la dernière émission de l'année d'ailleurs, juste avant les fêtes. Et oui, les fêtes avec son cortège de décorations et d'événements. Et ça nous fait plaisir, on aime beaucoup cet esprit de Noël dans Cinescopie. Et voilà, donc je vous dis à tous une excellente soirée. Voilà, également à Laurent. Laurent, bonsoir, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une bonne semaine, notamment en fréquentant les salles obscures?
Bonsoir. Oui, j'ai arpenté les travées, vous voyez, j'ai fait toutes les salles, en fait, cette semaine. Voilà.
J'ai plus de chance que moi, parce que moi j'étais cloué au lit par une méchante rhinopharyngite.
Et donc forcément, eh bien, j'ai vu ça et là. J'ai fait quelques haltes quand même pendant cette semaine.
Ah bon, oui.
Pour.
Je trouvais que t'avais un peu minci parce qu'il faut manger quand même.
En fait.
C'est important.
Oui, mais c'est bon. C'est une nourriture, le 7e art aussi.
Tout à fait.
On nourrit l'esprit, voilà.
Exactement.
Et donc pour le coup, j'ai fait une petite collecte. de longs métrages. Voilà. Voilà. J'essaierai de
un
vous
peu
en
comme
parler.
Le Père Noël dans sa hotte, il y a tout plein de films là dont il va nous parler.
D'ailleurs, les bobines sont un petit peu lourdes. Hein. Je les ai traînées ce soir.
Ah oui, toi, t'es resté à la pellicule.
Oui. Ah ben, j'aime la nostalgie. Hein. Je suis très nostalgique comme cinéphile.
C'est vrai. Alors, mon cher ami, commençons cette émission en musique peut-être, je ne sais pas
ce que
tu as prévu.
Oui, alors allez, un film que j'adore, mais je crois que je ne suis pas le seul d'ailleurs. Film de J.J. Abrams, qui est sorti en 2011, qui est un hommage aussi à... un peu nostalgique ce film, hein, aussi à l'univers et au cinéma de Spielberg. C'est Super 8.
Ouais.
Et donc, le film est assez magnétique d'ailleurs, je dirais. De mon souvenir, j'ai été vraiment hypnotisé par l'atmosphère, mais aussi l'histoire. Il y a un ensemble. Et ça fait penser un petit peu à Stand By Me, d'ailleurs, dans le concept. Et la musique est signée Michael Giacchino, qui est vraiment sur tous les plans, ce compositeur. C'est lui qui a composé, au passage, le dernier Disney aussi, Zootopie 2.
Ça doit être bien ça, je pense.
Et donc voilà. Ouais. Donc on espère aussi d'ailleurs au passage un support physique de la bande originale, pourquoi pas. Et donc musicalement, vous allez le découvrir si vous ne connaissez pas cette partition. C'est vraiment aussi dans l'ambiance, je dirais. Il se rapproche un petit peu dans le style de Williams quand même, ce Michael Giacchino.
Je pense que. On reste dans cet hommage au cinéma de Spielberg, bien
oui,
sûr.
Oui, je pense qu'il y a une grande influence, hein, c'est inévitable. Et du coup, on va écouter cette suite orchestrale, interprétée sur un album qui faisait les belles sorties à l'époque de Varese Sarabande.
Et oui.
Alors, il y en a encore quelques-unes, hein, mais bon, c'est souvent des rééditions. Là, il n'y a pas trop de
grosses nouveautés. Oui, actuellement, il est un petit peu moribond, ce label.
Espérons qu'il renaîtra un petit peu de ses cendres.
C'est vrai qu'en tout cas, à l'époque, quand j'ai vu le film, la première réaction en sortant de la salle, c'était d'acheter la BO du film. J'étais emballé, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve ça. Et finalement, Varese a eu la bonne idée de sortir cet album.
Oui, tout à fait. Et donc, si vous ne connaissez pas le film, nous, on vous le conseille fortement. Oui. En plus, pour les fêtes, là, ça colle assez bien. C'est un univers un petit peu féerique aussi.
Et puis, c'est aussi un film, comme l'indique son titre, c'est un film sur le cinéma. Il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est super intéressant. La photographie est démentielle. Et puis, il y a un côté quand même autobiographique, parce que J.J. Abrams raconte aussi sa jeunesse quand il était tout gamin, qui tournait ses films en Super 8. Et d'ailleurs, le chef opérateur du film connaissait J.J. Abrams. Ils étaient potes quand ils étaient gamins et ils ont fait des films ensemble. Donc, il y a vraiment cette histoire qui, à la fois un hommage à Spielberg, mais aussi un côté autobiographique. Voilà, donc, c'est un film assez riche. Comme tu dis, il y a une dimension magique et la présence aussi magnétique d'Elle Fanning. Moi, j'adore cette actrice.
Ah oui. Alors là, elle crève l'écran. Hein. On la voit d'emblée sur les premières scènes. Là, pour le coup...
Elle est bluffante.
Hein. Ah oui, extrêmement. Ouais. Allez, on écoute cette suite orchestrale de Super 8 et on se retrouve juste après pour la première rubrique consacrée à la vidéo. Alors comme je suis nostalgique, et si on parlait de quelques nouveautés en VHS?
Pourquoi pas.
D'ailleurs à ce sujet, on pourrait en parler dans la rubrique, mais c'est un petit peu pour l'anecdote, mais il y a un magasin sur Paris qui s'est spécialisé dans les films d'occasion en cassette VHS. Et apparemment, ça marche. Voilà. Et...
Ah bah écoutez, mais c'est vrai qu'il y a certains films qui ne sont pas encore sortis en DVD, hein, même
oui.
en Blu-ray.
Oui, oui, mais bon, après, c'est, je pense que c'est la nostalgie c'est aussi la nostalgie. Du support, parce qu'on ne peut pas dire qu'il a laissé un souvenir impérissable en termes de qualité.
C'est sûr.
Mais bon, voilà. D'ailleurs, je crois qu'il y a un éditeur, ESC Édition, qui a retenté sur certaines sorties le packaging, en fait, de boîtier VHS pour ses sorties DVD Blu-ray. Voilà. Allez, on écoute Michael Giacchino et on se retrouve juste après. rubrique vidéo.
L'actualité du Blu-ray, du DVD, c'est maintenant sur RTF, dans Cinéscopie. Alors, voilà, c'est les fêtes, et eh bien, quoi de plus beau pour les fêtes qu'un coffret consacré à Sissi. Alors, c'est le label Rimini Édition qui vous propose ce coffret qui regroupe quatre films de la saga Sissi, avec Romy Schneider, bien sûr, dans le rôle principal, puisque de toute façon, Sissi, c'est forcément Romy Schneider, en tout cas, dans nos mémoires. Donc on va retrouver Sissi, les jeunes années d'une reine, Sissi impératrice, Sissi face à son destin, dans un coffret de qualité, puisque les transferts effectués sur ces Blu-ray sont de qualité. Voilà, on peut même dire que sur certains films, comme par exemple Les Jeunes Années d'une Reine, on a un transfert vraiment royal. Voilà, petit jeu de mots, évidemment, sur ce coffret Sissi. Voilà, donc quatre films réalisés par Ernst Marischka, qui vous sont proposés d'ailleurs dans leur montage français et allemand. Bon, alors, il y a les deux montages, mais en fait, finalement, les films ne diffèrent que que très peu finalement. Certains plans et certains angles de caméra, mais dans l'ensemble, il se rapproche. En tout cas, vous avez ici la totale dans ce très joli coffret. Voilà, pour les nostalgiques de Sissi, Sissi, ça se prête très bien aux fêtes, comme les fêtes de Noël, par exemple, pour rêver. Et autre chose, alors là, par contre, c'est un film paru chez Netflix, la plateforme Netflix. Alors, pour reparler de Netflix, il y a actuellement... je vous avais dit que Netflix allait acheter Warner Bros. Pour pratiquement 80 milliards de dollars. Mais alors, en fait, il y a une bataille, puisque Paramount a décidé de se lancer dans le rachat de Warner Bros. Mais Paramount amène sur la table plus de 100 milliards de dollars. Je ne sais pas si tout ça s'est résolu. Je regarde Laurent. Est-ce que tu sais si Paramount a racheté? Non, tu ne sais pas. Mais donc, Paramount, c'est une contre-offre. Et alors là, alors que Netflix souhaitait finalement acheter une partie seulement de Warner, et notamment... tout son catalogue de films et ses plateformes comme HBO, Paramount veut carrément acheter la totalité de Warner. Alors ça pose un petit problème parce que quand même, dans le Paramount, parmi les financiers qui soutiennent Paramount dans ce rachat, il y a un fonds d'investissement qui est détenu par le gendre de Donald Trump. Donc ça voudrait dire que si Warner se retrouvait dans le giron de Paramount, quelque part, d'une certaine manière, il se retrouverait dans le giron de la famille Trump. Et donc là, il pourrait y avoir un conflit d'intérêts. Mais enfin, on n'est plus surpris malheureusement par ce qui se passe aux États-Unis, où on voit bien que finalement Trump confond ses intérêts propres avec ceux des États-Unis. D'ailleurs ça.
Voilà. Après, l'affaire n'est pas tranchée, mais la dernière offre de Paramount a posé sur la table 108 milliards,
ouais, 108 milliards
de dollars pour le rachat en fait de l'ensemble du groupe Warner Bros.
Eh oui. Ouais. Donc les choses ne sont pas encore fixées, mais bon, on va suivre ce feuilleton avec évidemment beaucoup d'intérêt. Donc pour revenir à Netflix, nous propose sur sa plateforme un film intitulé Jay Kelly. L'histoire d'un acteur américain interprété par George Clooney qui... à l'occasion d'un voyage en Italie, où il doit recevoir un trophée honorifique, remet en question son statut de superstar, de père et d'homme. Voilà. C'est une comédie dramatique que l'on doit à Noah Baumbach, et aux côtés de George Clooney, il y a Isla Fisher et Adam Sandler. La musique est signée Nicolas Britel, et c'est un film assez virtuose, assez beau, avec un très bon George Clooney. Donc je vous invite à découvrir ce film, c'est Netflix qui le distribue en Blu-ray, une très belle copie, voilà, je regarde, c'est du 4K, voilà, c'est ça. C'est bien en 4K, ça s'appelle Jay Kelly, je ne sais pas si vous avez dit le titre, je le rappelle, Jay Kelly, et c'est avec George Clooney, moi je suis assez fan, donc forcément... je vais me procurer ce film inévitablement. Alors, un autre film pour les fêtes, je ne sais pas si on en avait parlé, c'est la réédition de La Mélodie du Bonheur. Film, la comédie musicale de Robert Wise, avec dans les rôles principaux Julie Andrews, Christopher Plummer et Eleanor Parker. Musique signée Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II. C'est un des grands classiques de la comédie musicale qui avait obtenu en 1965... l'Oscar des meilleurs films réalisateurs, Oscar du meilleur son, du meilleur montage et de la meilleure adaptation musicale. Un film qui nous entraîne à la veille de l'Anschluss, une gouvernante autrichienne apprend la musique aux enfants dont elle s'occupe. Donc cette gouvernante, c'est Julie Andrews, bien sûr. Un film qui vous est donc proposé en 4K, donc en ultra haute définition, par 20th Century Fox. Le film est assez long, il dure quasiment 3 heures, mais c'est quand même un émerveillement constant, et surtout que l'image est tout à fait sublime. Voilà, donc on a un master 4K tout à fait éblouissant, et moi je vous conseille franchement de redécouvrir ce film, bardé de quelques bonus, et puis voilà, c'est chez 20th Century Fox. Voilà, je vous l'ai déjà dit, La Mélodie du Bonheur, C'est le film à découvrir ou à redécouvrir si vous ne l'avez pas déjà vu. Et puis, restons avec le Père Noël cette fois-ci, mais avec le Père Noël est une ordure, le classique. Classique de la comédie française réalisé par Jean-Marie Poiret avec Anémone, Thierry Lhermitte, Josiane Balasko, musique signée Vladimir Cosma, on a un petit peu oublié. Un film qui date de 1982. Un film qui nous transporte dans les locaux de SOS Détresse Amitié. Une association qui répond aux âmes désespérées, même le soir de Noël, et évidemment, ça va devenir complètement délirant. Voilà, on se souvient de Christian Clavier, Gérard Jugnot, toute l'équipe du Splendide, finalement, dans ce film, avec ces dialogues qui sont restés cultes. C'est... je suis en train de regarder. Qui c'est qui nous propose ça? C'est Studio Canal, qui nous propose le film en ultra haute définition. Voilà, c'est un des meilleurs films de Jean-Marie Poiret, qui est moi personnellement, un metteur en scène que je n'aime pas énormément. J'aime pas beaucoup le style de Poiret, ce style assez clipesque, je trouve, notamment dans ses derniers films, comme Les Anges Gardiens, que j'avais trouvé vraiment très très mauvais. Donc voilà, mais celui-là, évidemment, c'est quand même un film du Splendide, hein, donc d'une certaine façon. Donc, et puis c'est, voilà, ça reste une comédie culte qu'on ne se lasse pas de regarder. Voilà donc ma petite sélection de ce soir. Le Père Noël est une ordure, La Mélodie du Bonheur, Jay Kelly, le film américain avec George Clooney, et puis évidemment, alors là, on est un peu fleur bleue, hein. Alors le coffret Sissi avec Romy Schneider, l'incomparable, l'incontournable Romy Schneider, qu'on a toujours plaisir à retrouver dans ce coffret.
Je crois que c'est d'une première, hein, l'édition haute définition du coffret Sissi. Je crois qu'il y a eu, il y a eu des éditions de DVD, mais jamais, je crois, haute définition, me semble-t-il. Ah
bah donc ça vaut le coup, parce qu'il y a quand même de la belle image. Il y a de très beaux décors, de très beaux costumes.
Voilà. Et puis bon, en général, bon, l'éditeur studio... c'est Rimini.
C'est Rimini, édition, là, sur
Rimini édition Arcades. Ils se sont nettement améliorés dans la remasterisation. Donc,
ouais.
Ok. Eh bien, moi, je vais vous parler d'un film, Second Life. C'est un inédit. En fait, il n'est jamais sorti dans l'Hexagone. Film dramatique de Park Jung-hoo avec Jung Da-foon et Park Sun-hyun et John Yoo-yeon. Et donc, film de la Corée du Sud. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait un parallèle quand même avec l'actualité hexagonale, qui raconte l'histoire, en fait, d'une lycéenne qui est délaissée par ses parents fortunés et ignorée par ses camarades de classe. Et donc, elle est mal dans sa peau, ment pour attirer l'attention de son entourage et finit par fuguer. Et donc, c'est un film indépendant, totalement maîtrisé, délicat et touchant, merveilleusement d'ailleurs interprété, qui traite de front le mal-être adolescent vécu en Corée du Sud, pays d'ailleurs au passage qui compte l'un des taux de suicide des jeunes les plus élevés au monde. On le doit, ce film, à l'éditeur Badlands, c'est sorti exclusivement en haute définition. Il n'y a même pas de sortie DVD. Bon, on va pas s'en plaindre, hein, parce que voilà, pour une fois qu'il y a quand même une édition Blu-ray, eh bien, c'est plutôt à se féliciter. On reste dans le cinéma, je dirais, asiatique, taïwanais, japonais, film de 2000, prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Je crois d'ailleurs que c'est un film qui a rencontré un vif succès tant sur le grand écran qu'à la sortie vidéo, parce que c'est déjà sorti et je crois que déjà, eh bien, on cherche les exemplaires, parce que c'est une édition plus ou moins limitée, un petit peu, c'est une sorte de film coffret, si je puis dire. C'est Carlotta donc qui le met donc à la vente dans une édition donc coffret combo, avec donc Blu-ray et Ultra HD. C'est une œuvre qui est assez magique, d'Edouard Yang, avec Woon Yan Chen, Ellen Jean et Kelly Lee, pardon. Et donc, le film s'intitule, c'est un film dramatique, hein, qui s'intitule Yi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous connaissez ce film. Et donc, c'est l'histoire d'un homme, lorsqu'il retrouve par hasard son amour de jeunesse, eh bien, se demande s'il ne pourrait pas renouer avec son passé sentimental et mener une autre existence. C'est une œuvre magique qu'il convient de contempler en prenant d'ailleurs tout son temps pour s'imbiber de ces sortilèges esthétiques, narratifs et aussi émotionnels. Un film qui comporte, enfin une édition qui comporte pas mal de bonus, qui sont d'ailleurs communs aux deux supports en haute définition, des entretiens magnifiquement complémentaires d'ailleurs autour du film et de son réalisateur par un spécialiste et le cinéaste Olivier Assayas, hein, une quarantaine de minutes, ce qui est quand même assez intéressant. La bande-annonce est dans cette édition, est présent donc un poster de l'affiche du film, le dossier de presse et aussi un badge métallisé et quatre superbes photos format Polaroid, voilà. Alors l'édition est un petit peu chère, hein, parce qu'elle tourne aux alentours du 35 euros, c'est-à-dire la valeur d'une édition métal. Mais voilà, c'est un film très intéressant. Si vous ne le connaissez pas, il faut vraiment le découvrir. Du fait que il y a le roman de Victor Hugo qui est je dirais très à la mode en ce moment, avec Les Misérables, savoir qu'on a eu et qui est toujours à l'affiche d'ailleurs, Jean Valjean.
Oui, c'est surprenant d'ailleurs.
Oui, c'est très étonnant. Et il va y avoir un autre film, Les Misérables, je crois, qui va sortir dans l'année 2026. Voilà. Et donc, l'éditeur Elephant nous propose donc en fait une version de Marcel Bluval, qui est très connu dans le monde du petit écran, et donc qui va nous proposer cette version-là qui a été tournée en 1972 avec Georges Géré, Bernard Fresson et Nicole Jamet. Et donc, ça raconte forcément l'adaptation des Misérables, mais c'est une adaptation qui est originale et qui ne suit pas le récit chronologique habituel, mais le nourrit d'un long flashback qui exalte d'ailleurs la dimension humaine de l'œuvre, renforcée par une narration en voix off et des moyens assez importants d'ailleurs au service du jeu habité, tragique et intense des comédiens. Donc la reconstitution de l'époque via ses environnements, en respirant le luxe, en opposition à la misère et à la détresse, et donc à quelque chose, je dirais, d'assez profondément poignant. Donc c'est une découverte à considérer d'ailleurs sérieusement, malgré, je dirais, des conditions techniques précaires, mais bon, il faut quand même resituer l'œuvre. On est début des années 70, et donc c'est quand même, comment dire, un projet assez télévisuel au départ. Hein, donc,
c'est les grandes heures de l'ORTF, là.
Voilà, j'allais le dire. Et donc, pour le coup, eh bien, on a deux époques, pareil, et donc ça nous fait, on flirte, on va dire, avec les 4 heures, à peu près, de fiction. Donc, ça vaut quand même le coup d'être vu. Voilà, pour au moins voir un petit peu l'approche de l'époque.
Un bon casting en plus.
Oui, un bon casting. Mm-hmm. Alors, autre film, ça a été aussi un réalisateur qui a été à l'honneur. Hein, je crois qu'il y a eu un film d'animation. Et je crois que d'ailleurs aussi, en parallèle, il y a eu des œuvres en bande dessinée de ces grands films. C'est un des derniers films sortis donc à la vidéo en haute définition de Marcel Pagnol, réalisé en 1935, c'est Merlus, voilà, avec Henri Poupon, André Polak, Castagne, musique signée Vincent Scotto, sur en fait l'histoire d'élèves qui sont restés au pensionnat la nuit de Noël et qui découvrent la véritable nature d'un surveillant borgne, mal aimé, auquel il prêtait de bien sombres desseins. Voilà. Et donc, ce premier scénario original écrit par Marcel Pagnol pour le cinéma, vibre encore d'une générosité et d'une nostalgie qui font toujours aussi chaud au cœur, quitte à verser d'ailleurs une petite larme d'émotion. Voilà. Donc, c'est édité par CMF, qui est en fait l'éditeur attitré donc des œuvres de Marcel Pagnol. Voilà, c'est déjà disponible, et pour ceux qui voudraient bien sûr le découvrir, parce que pour ma part je ne connais pas en tout cas cette œuvre.
Je ne connais pas. Par contre, je me demande si ce scénario n'aurait pas inspiré le film Spring Break, qui est sorti il y a 2 ans, là, où pareil des étudiants sont obligés de rester avec leur surveillant, que c'est pas Giamatti d'ailleurs.
C'est pas Spring Break.
C'est pas Spring Break,
c'est Winter Break.
C'est Winter Break.
C'est Alexander Payne.
Break, c'est Winter.
Qui est sorti en 2023.
Ouais, enfin, c'est Winter Break.
En tout cas, moi qui m'avais beaucoup plu.
Mais oui, moi aussi.
D'ailleurs sorti à l'époque des
fêtes
de fin d'année.
D'ailleurs,
Et le film avait bien marché.
C'était très bien ça. Oui. Effectivement, logiquement, c'est Winter, mais c'est l'hiver. Et oui, Winter Break.
Voilà.
Parce que Spring Break, c'est autre chose. Hein. C'est pas... Ça existe, mais c'est pas la même ambiance. Hein. C'est... Une ambiance un peu plus peut-être débridée, un peu plus portée sur la boisson, on va dire.
Peut-être. Voilà, oui.
Et sur le. On n'insiste pas.
Oui, non, on va pas s'attarder, mais bon, voilà.
Non, remarque, pendant les fêtes, des fois, la boisson s'invite aussi, hein, quand même. Hein.
Oui, oui. Ben, un petit peu forcé, d'ailleurs.
Ah, hein, oui.
On a du mal à résister.
Ouais, qu'est-ce que tu veux?
Alors, je regardais un petit peu aussi quelques sorties. Je cherche. Mais...
On a déjà parlé. Par contre, enfin, je pense qu'il faut le rappeler, parce qu'on avait dû en parler, mais je crois que ça vient juste de sortir dans les bacs, la version ultra haute définition du film Vampire de John Carpenter, qui sort, je crois, chez ESC Éditions. Alors, il y a deux versions. Une version un peu collector, un coffret avec quelques goodies dedans, et puis une version un peu plus standard, mais en 4K à chaque fois. Et c'est un film à redécouvrir, parce que c'est vrai que peut-être que c'est un des films mal aimés de John Carpenter, à revoir avec un James Woods très rock'n'roll là-dedans, mais qui est vraiment excellent. Et donc je vous conseille de voir ce vampire. J'imagine que l'image du chef-op à l'époque était quand même très bien, donc j'imagine qu'en 4K ça va être vraiment ça va décoiffer. Donc je vous conseille de redécouvrir ce film de John Carpenter, Vampire. Je crois que c'est ESC qui fait ça.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Belle édition d'ailleurs, hein. Un petit peu cher, mais bon.
Oui, c'est ça.
Elle flirte avec les 50aines d'euros, je crois.
Oui, la version standard, sans les goodies, c'est, je crois, 35 euros. Et la version, tu l'as dit, collector, pas loin de 50.
Ok. Si on faisait un petit tour sur l'import, avec une édition. De Charles Russell, une comédie avec Jim Carrey, mais qui a bénéficié déjà, je crois, il n'y a pas si longtemps, avec un prix assez attractif d'une édition métal. C'est pour le film The Mask. Si vous ne connaissez pas ce film, avec Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert, et bien réalisé en 1994. Un film un petit peu déjanté d'ailleurs, mais qui est une belle prestation en tout cas de Jim Carrey. Donc je vous invite à le découvrir en UHD. Donc ça, c'est sorti chez Arrow Film. Vous pourrez le découvrir. Et puis pour en terminer, deux classiques. Alors il y en a un que... j'apprécie particulièrement, mais même les deux d'ailleurs. Un film de 1981, d'ailleurs au passage la musique était signée Goldsmith, avec Sean Connery, Peter Boyle, Francis Sternhagen, c'est Outland.
Très, très bon film de SF.
Qui est sorti là encore chez Arrow Film. donc en ultra HD, Blu-ray et DVD. Et pour en terminer, le film de George Seaton avec Burt Lancaster, Dean Martin, Gene Seberg, c'est Airport, film d'aventure. Oscar d'ailleurs au passage du meilleur second rôle féminin pour Helen Hayes. Voilà, et la musique au passage qui était signée Alfred Newman.
Oui, exactement.
Et par contre, je n'ai pas dit l'éditeur. L'éditeur, eh bien, ce n'est autre que Kino Lorber.
Ouais. Ouais, c'est vrai que ça reste classique du film catastrophe. Il y a après toute une vague d'Airport, avec notamment George Kennedy à chaque fois.
Oui.
Et puis sinon, on peut se le procurer en import parce que le film est français. Donc ceux qui ne sont pas anglophones, du coup, ne seront pas gênés. C'est un film d'horreur français intitulé Martyr, qui sort dans une édition bardée de bonus chez Eureka. C'est en ultra haute définition, il faut le souligner, parce que à l'époque en France il y a un DVD je crois qui a été sorti, mais je crois que pas plus. C'est Martyr donc de Pascal Laugier avec Mylène Jean-Panoï, Morgana Alaoui et Catherine Bégin. Un film très dur d'ailleurs, hein, le film. Je me demande quand il est sorti en salle si le film n'avait pas été interdit au moins de 18 ans en fait à l'époque.
Je n'ai pas le souvenir, mais possible.
Ouais. Donc c'est une jeune femme qui veut se venger des personnes qui l'ont séquestrée 15 ans plus tôt. Et malheureusement, son martyre n'est pas prêt de se terminer. J'en dis pas plus, mais c'est parce que bon, je voudrais pas spoiler ce film, qui est un film assez extrême, mais c'est quand même aussi un film assez audacieux. Et Pascal Laugier vraiment va vraiment au bout de son sujet là, donc vous pouvez découvrir ce film dans cette superbe édition. Donc Martyr chez Eureka, c'est de l'import, donc il faut vraiment passer par l'import, mais vous ne serez pas déçus par cette belle édition. Voilà. Alors là par contre, c'est pas un film à regarder le soir du réveillon. Quoi.
Oui, c'est un petit peu déconseillé d'ailleurs.
Oui, quand même. Bon, eh bien, il est 21h40 sur la pendule de RTF. On va donc écouter, on va faire une pause musicale. On va écouter un extrait musical. Alors, je me tourne vers Laurent. Je ne sais pas quelle est sa sélection musicale à la mi-temps de l'émission.
Eh bien, on a parlé tout à l'heure avec Coutland de Jerry Goldsmith.
Oui.
Et forcément, c'est très difficile de choisir dans toute la filmographie, je dirais, du compositeur. Mais on va comment dire, partir sur un grand classique de 1974, grand polar, incontournable, en tout cas. Pour ceux qui connaissent le film, ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment une grosse lacune.
Oui.
Y avait qui dans ce film ? Jack Nicholson, Faye Dunaway, entre autres.
Oui, Mia Farrow.
Oui.
John Huston.
Oui. Et un polar noir comme on les aime, signé.
Roman Polanski.
Et voilà. Et la musique est signée Jerry Goldsmith.
Et on n'a pas donné le titre encore.
Hein. Et non. Et là, on va écouter...
jusqu'au bout, hein, si. Vous l'avez peut-être deviné.
On va écouter une interprétation par un trompettiste qui a fait un album hommage au cinéma, qui s'appelle Move. Dessus, il y a quand même aussi des grosses pointures. Donc, On va révéler quand même. Voilà, c'est pour la musique de Chinatown. Et c'est Romain Leleu, trompettiste émérite, qui apparaît donc sur cet album, associé quand même à un autre grand trompettiste qui n'est autre qu'Ibrahim Malouf.
Ah oui, quand
même. Bien sûr, soutenu et accompagné par le Stuttgarter Philharmonique. Mais aussi, il y a le Romain Leleu Sextet et aussi le Anne Passeo Trio, hein, qui est quand même... Voilà,
donc là, un beau casting musical.
Tout à fait. Donc on va partir pour 6 minutes de Chinatown. Je vous invite à écouter cette version-là qui est vraiment magnifique. Et on se retrouve juste après pour la sélection des films de la semaine. Tout de suite, donc, Chinatown. les films de la semaine ce soir.
Mektoub My Love, Canto Doué d'Abdelatif Kechiche, l'élu d'Osgood Perkins, et Dites-lui que je l'aime, le film de Romain Bourringer. Voilà les trois films dont nous allons vous parler ce soir. Alors on va commencer peut-être par le film L'élu, signé Osgood Perkins. Le titre original, d'ailleurs, The Keeper, que je trouve plus intéressant et moins divulgachant finalement que ce titre français, L'élu. Alors, Osgood Perkins, c'est le fils d'Anthony Perkins, et qui, depuis 2-3 ans, est assez actif hein, sur le front de la réalisation, Il s'était fait remarquer il y a 2 ans par le film Long Legs, un film, un thriller assez angoissant avec Nicolas Cage dans le rôle d'un serial killer. Il avait enchaîné ensuite avec une adaptation de Stephen King, The Monkey, qu'on avait vu également dans Cinéscopie, que nous n'avions pas détesté, d'ailleurs c'était plutôt bien réalisé. Et il nous revient donc cette semaine avec ce film The Keeper, L'élu donc, en français, et qui prouve une nouvelle fois que Osgood Perkins est un cinéaste à suivre, parce que c'est quelqu'un qui sait très très bien filmer, qui a la science du cadre, tout comme Long Legs. On est un petit peu stylistiquement un petit peu dans l'esprit de Long Legs. Ce sont pas mal quand même de plans fixes. Alors quand il y a des mouvements d'appareil, c'est quand même assez discret, assez subtil. Il y a un art du cadrage vraiment superbe. Très belle photo, hein. Voilà, chef opérateur fait un très très beau travail. Et donc finalement cette mise en scène permet au film de décliner un climat comme ça assez inquiétant, et la tension monte crescendo. Voilà, ça c'est vraiment l'aspect, je dirais, positif du film. Par contre, le problème, c'est que quand on a vu la bande-annonce, moi quand j'ai vu la bande-annonce de ce film, L'élu, je m'attendais à un film, franchement, vraiment un film d'épouvante, effrayant, vraiment, voilà, film d'épouvante au sens au premier degré, c'est-à-dire que on avait vraiment très peur, et puis la bande-annonce nous montre des créatures assez flippantes, en fait. Hein. Et c'est vrai que, d'ailleurs, je trouve que le look des créatures fonctionne bien, c'est assez réussi. Et le problème, c'est que ces créatures, on ne les voit pas beaucoup. Elles sont, à mon avis, un peu sous-exploitées. Et je trouve que, à force de tabler sur, on va dire, les ambiances, l'atmosphère du film, eh bien, Osgood Perkins en oublie son histoire. Moi, je trouve qu'il ne se passe finalement pas grand-chose dans ce film. En fait, c'est l'histoire d'un couple. Ouais, ce sont des quadragénaires qui... qui ont commencé une histoire d'amour, ils se connaissent depuis 1 an, et puis l'homme qui est médecin décide d'emmener sa compagne dans son chalet de montagne. Alors c'est pas n'importe quel chalet, c'est un chalet construit par un architecte, hein. C'est une architecture contemporaine, voilà, on sent que c'est un quelqu'un d'aisé, voilà, d'ailleurs il est médecin. Voilà, donc c'est un environnement assez luxueux, mais voilà, en pleine montagne, dans un endroit quand même évidemment isolé, un peu enfermé dans la forêt, et donc Perkins va pas mal jouer sur ses effets de claustrophobie, en fait. Et ça, c'est plutôt bien, encore une fois. Et voilà, et petit à petit, donc, ce couple qui vit, voilà, une belle histoire, eh bien petit à petit les choses vont se déliter. Il y a progressivement des indices qui, voilà, il y a des choses qui ne vont pas, et ce chalet abrite évidemment quelques secrets abominables. Bon, je ne vais pas en dire davantage parce que j'ai pas envie de spoiler davantage cette histoire. Alors finalement, un film qui reste assez, c'est une sorte de huis clos, hein, parce qu'en fait presque tout se passe au sein de ce chalet. Très peu de personnages également dans le film. On peut considérer qu'il y a 4 personnages principaux dans ce film, donc un film, une atmosphère plutôt intimiste avec très très peu de personnages. Et voilà, alors il y a quand même évidemment des événements étranges qui surgissent. Voilà, mais le film, relativement court, il nous durait 1h40. Voilà, et je trouve que c'est un peu comme ce que j'avais reproché un peu à Long Legs à l'époque, c'est que finalement, tout ça pour ça, c'est-à-dire que On aurait aimé finalement que les choses dégénèrent un petit peu plus vite et puis surtout que ce soit même un petit peu plus trash, même si il y a quand même quelques plans voilà qui sont intéressants. Voilà, mais au finish, ben, je suis sorti un petit peu un peu mitigé, même un peu déçu à vrai dire de la projection parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus flippant, de beaucoup plus trash en fait, et j'ai eu la sensation plutôt de voir un très bon épisode d'une anthologie de téléfilms horrifiques comme je sais pas La Quatrième Dimension, Au-delà du réel ou autre chose, ou la American Horror Stories si vous voulez éventuellement, mais voilà. Plutôt, voilà, j'avais l'impression que il manquait quand même beaucoup plus d'ampleur dans, peut-être dans la narration et dans les développements scénaristiques. Alors, c'est un film qui pourrait se rapprocher d'une certaine façon si on devait faire trouver quelques références. Moi, j'ai pensé à un moment donné au film de David Cronenberg, Chromosome 3. Hein, donc, j'ai pensé à ça. J'ai pensé un petit peu à ces films qui se passent un peu dans ces films, ces survival qui se passent en montagne. J'ai pensé un petit peu au projet Blair Witch. On pense à pas mal de choses. J'ai même pensé finalement aussi au film Substitution qu'on a vu cet été parce que tout d'abord, l'essentiel du film Substitution se passe là aussi au sein d'une villa, enfin d'une maison et dans la nature. Voilà, il y a très peu de personnages aussi.
C'est une belle référence.
Oui.
Plus que Projet Blair Witch, quand même.
Oui, quand même. je reconnais. Dans Projet Blair Witch, le Projet Blair Witch, c'est plus par rapport à l'aspect un petit peu surnaturel des événements. Voilà, mais je n'en dis pas plus. Et donc, voilà, on est un petit peu dans ce qu'on appelle un peu... c'est un terme que certains n'aiment pas, mais enfin bon, on appelle elevated horror, c'est-à-dire une espèce de cinéma fantastique ou cinéma d'horreur un peu autorisant, on va dire. Mais bon, pour une fois, je trouve qu'Osgood Perkins, plus que dans Long Legs, il arrive à rester quand même assez accessible. Voilà, mais tout ça reste quand même relativement soporifique, il se passe pas grand-chose, et c'est quand même bien dommage parce qu'il y avait du potentiel. Moi, je trouve que c'est un cinéaste à suivre, sur Osgood Perkins. Je pense qu'il a du talent, mais voilà, sur ce scénario, je pense que voilà, c'est un petit peu dommage. Il soigne sa mise en scène. Disons que c'est peut-être ça le problème, c'est qu'il se regarde peut-être un petit peu trop filmé. Peut-être n'avait-il pas toute la matière scénaristique suffisante, ou même le budget, parce que c'est aussi une histoire de budget. Mais je pense qu'il y avait matière à faire des choses encore plus intéressantes. Donc, on est dans un film. On peut penser à M. Night Shyamalan, des mauvais jours, on va dire. Voilà. Bon, et voilà, pour l'élu, donc, faut dire que moi, quand j'ai vu le film, je sais pas si le film a du succès, mais quand je suis allé le voir, j'avoue que j'étais tout seul dans la salle. Alors, peut-être que les gens font leurs emplettes de Noël, hein, c'est possible aussi. Hein, voilà.
On va dire ça.
Voilà, j'ai été en plein après-midi, peut-être, les gens vont aller en boîte, machin, truc. Écoute, c'est peut-être ça aussi. Mais c'est vrai que c'est quand même une déception. Même si c'est pas un mauvais film, on peut pas dire ça non plus, mais c'est vrai que on est loin du film qui nous avait été vendu par la bande-annonce. C'est-à-dire que la bande-annonce finalement nous en montre peut-être. On a plus peur en voyant la bande-annonce qu'en voyant le film. C'est quand même quelque chose. Bon, on va changer de registre, Laurent.
Après, je n'ai pas vu le film. Oui. Mais souvent, dans certains films assez médiocres, on gagne du temps à regarder la bande-annonce. Ouais. Plutôt que s'attarder sur le métrage.
C'est vrai, le film, c'est pas mauvais, mais c'est vrai que malheureusement, c'est un petit peu raté quand même. Voilà, on va pas se le cacher. On change de registre avec le. On va commencer peut-être par le film de Latif Keshish, Make to My Love. Alors je vois que c'est le troisième épisode d'une sorte de trilogie.
Voilà, Canto Duo. À savoir que Mektoub. Est de retour, et Abdel Latif Keshish qui on le savait était quand même relativement affaibli par un AVC en mars dernier, est parvenu quand même à extraire de son imposante matière, hein, c'est des centaines d'heures de rush tournées dans la quasi-foulée du premier volet en 2017, donc un canto duo, et ainsi recouvert son controversé intermezzo, parce que le deuxième volet, en fait, est totalement inédit en salle et a été réalisé en 2019. Et pour le coup, ce deuxième volet avait sérieusement écorné l'aura du cinéaste, tellement le film était raté. Et donc, du coup, c'est, on va dire, une sorte de retour aux sources, même si, pour ma part, le film ne m'a pas véritablement convaincu. Voilà. Il se passe pas grand chose, enfin en tout cas rien de nouveau sous le soleil. À savoir que sous le soleil c'est toi, hein, parce qu'on est toujours à 7. Et là pour le coup, ce qui est peut-être nouveau, c'est qu'il y a deux nouveaux protagonistes, à savoir un producteur américain et sa femme, qui est beaucoup plus jeune. Actrice d'un soap célèbre, Les Braises de l'amour, et en fait cette dernière ferait n'importe quoi pour manger un couscous chez Kechiche, et donc l'appétit comme la danse d'ailleurs est une réaffirmation de l'indépendance du réalisateur, et donc autour de ce couple star, eh bien bourdonne un essaim que l'on reconnaît bien et qui était en partie présent lors du premier volet. Voilà. Donc, il n'y a pas véritablement de renouveau. On assiste un petit peu à la même chose, mais avec beaucoup plus de longueur, enfin, pour ma part.
Et donc, ça dure 2h15.
Même 2h20. Ouais. On n'est pas à 5 minutes près, mais enfin, voilà. Il y a quand même quelques longueurs. Et à savoir qu'on n'est pas... Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas été touché par, je dirais, la destinée de l'ensemble de ces acteurs. On est assez distancié. Et puis, voilà. À part peut-être celle qui sort son épingle du jeu, c'est l'actrice qui joue donc le rôle de cette star ambitieuse, mais qui n'a rien pour être ambitieuse, parce qu'en fait elle a tourné.
C'est Ophélie Beau, donc, je crois, qui joue le rôle, il me semble. C'était elle, mais bon.
Oui, Ophélie Beau, oui, tout à fait. Ophélie Beau, qui a quand même une belle plastique. Voilà, en plus.
Ce qui n'est pas pour déplaire à Abdelatif Kechiche, on sait qu'il aime bien filmer les jeunes femmes.
Et puis en plus, ouais. Bon, elle a quand même beaucoup de charme lorsqu'elle, lorsqu'elle s'exprime, lorsqu'elle joue. Mais bon, voilà, ça s'arrête là en tout cas. C'est un film assez bavard. Ouais. Et qui, en tout cas, n'a pas l'aura du premier, loin de là. Même si il est certainement meilleur que le second volet, on reste quand même en deçà de ce qu'il nous avait proposé. Je crois que là, pour le coup, il faut qu'il arrête. Enfin, en tout cas, on espère que ça restera une trilogie.
Oui. Oui, c'est parce que sans doute il est un peu fatigué. Hein. Je suis pas sûr, mais que pour ce film, il a eu recours à pas loin de 9 monteurs, pour te dire.
Oui. Il y a quand même ce film a été monté avec par le fait, enfin dans la foulée, je dirais, du premier, où en fait il y avait des centaines d'heures de rush, et donc qui lui a permis en fait de pouvoir monter ce film. Mais bon, voilà, ça reste quand même
Une petite déception là aussi.
Oui. Moi, enfin, personnellement, j'ai pas été vraiment convaincu, alors que j'étais vraiment très enthousiaste.
Oui, j'avais bien aimé le premier. Oui.
Ah oui, le premier est magnifique. Mais là, bon, en restant de ça, parce qu'en plus de ça, à part deux personnages qui sont présents dans le premier, les autres ne font plus ou moins que de la figuration. Donc en fait, on les aperçoit à peine. On est quand même concentré sur les rapports d'Amine et aussi des deux protagonistes, le producteur et l'actrice. Voilà.
Très bien, merci Laurent pour cette critique du film de Kechiche. On va passer maintenant au nouveau film de Romane Boringer, Dites-lui que je l'aime. Un projet intéressant qu'elle a pu mener grâce à la complicité de Clémentine Autain, d'ailleurs. Tu veux nous en dire pas davantage?
Oui, c'est un film assez intriguant quand même. Ce Dites-lui que je l'aime. Intriguant parce que, avoir donc cette personnalité aussi discrète que Romane Bohringer, hein. C'est vrai que on peut dire que dans son histoire cinématographique, l'actrice réalisatrice ne s'est pas très ouverte, en tout cas sur son intimité, et donc là ouvrir grand ses portes sur cette intimité là lorsqu'elle passe derrière la caméra dans l'irrésistible L'amour flou, elle racontait sa séparation avec Philippe Rebaud. Ici, celle dont on connaît les liens forts avec son père, Richard, qui dévoile son rapport à sa mère, Marguerite, eh bien, la pièce manquante de tous les portraits qui lui ont été consacrés, car elle l'a abandonné à 9 mois, le geste d'autofiction est quand même moins direct. Il passe par sa découverte du magnifique « Dites-lui que je l'aime » de Clémentine Autain, récit d'ailleurs de sa relation non moins tortueuse avec sa propre mère, la comédienne Dominique Lafin, disparue en 85 alors qu'elle n'avait que 12 ans. Donc il y a une sorte de parallèle, je dirais, qui est fait entre ces deux histoires de vie. Et donc Romane Bohringer adapte donc un livre dans lequel elle s'est reconnue tout en y entremêlant son propre parcours. Le parti pris était quand même assez, je dirais, dangereux. Le risque d'être accusé de se servir de l'histoire d'une autre comme d'un tremplin assez planant forcément sur le projet. Sauf que le film est précisément l'inverse. C'est une véritable œuvre à 4 voix, 2 filles, 2 mères, dont le mélange des genres qui la constitue, images d'archives, scènes fictionnées, lectures en voix off, confidences émouvantes de Richard Bohringer, père, un extrait de Cendrillon de Joël Pomera, qui raconte le chemin chaotique, riche en aller-retour entre le présent, le passé, entrepris par la réalisatrice pour réparer en fait ce lien abîmé avec sa mère, comme Clémentine Autain l'a fait par le prisme en fait de l'écriture avec la sienne. Et donc il en résulte un film assez ludique, mais aussi extrêmement bouleversant. Je vous le cache pas, film excessivement sensible, en tout cas, mais pas du tout pato, mais vraiment, en tout cas, très très bien écrit, parce que c'était pas évident de faire, je dirais, l'entrée en matière, et l'angle d'ouverture est vraiment extrêmement intelligent. Extrêmement bien écrit. Rien que pour cela, je vous invite vraiment à découvrir ce film avant qu'il s'en aille, parce que dès mercredi, je crois que voilà, il va y avoir quelques séances, mais beaucoup moins que depuis sa sortie. Donc, allez-y, précipitez-vous si vous voulez absolument voir ce dernier film de Romane Bohringer.
Eh bien, vous l'avez compris, ce soir, le film que nous vous conseillons d'aller voir en priorité, c'est le film de Romane Bohringer et de Clémentine Autain, « Dites-lui que je l'aime ». C'est la recommandation de Laurent. Eh bien, je la suivrai, parce que c'est vrai que je n'ai pas encore vu ce film, donc je vais vite me précipiter en salle pour le découvrir. Mais c'est vrai que déjà le projet m'intriguait beaucoup, et effectivement, elle ne verse pas dans le pathos, et elle est à juste distance, et ça, c'est vraiment formidable. Donc, et puis moi, j'aime beaucoup le personnage aussi de Clémentine Autain, et j'ai redécouvert d'ailleurs à cette occasion sa mère, sa maman, c'est son qui était effectivement formidable comédienne, et qui nous a quitté, je crois, d'une crise cardiaque à l'âge de 35-36 ans, et voilà, elle était formidable, et son père qui était chanteur, je crois, Yvan Dautin, me semble, Yves Dautin ou Yvan Dautin.
Oui, il est artiste.
Il était artiste, ouais, également. Bon, en tout cas, on va aller découvrir tout ça, et il faut qu'on se dépêche, hein, parce que là, ça risque... Ouais, écoute, j'ai l'impression que le film fonctionne pas mal. Donc, quand même...
Oui, il y a un succès d'estime.
Oui, oui, oui.
Voilà, donc, mais bon.
Je crois que le film est bien reçu aussi par la critique, globalement. Donc,
oui, oui, tout à fait. Mais bon, voilà, il va être, je pense, sacrifié du fait, voilà, des grosses sorties qui sont annoncées.
Ah, et, oui.
Et donc, forcément, il ne pourra pas subsister trop, très longtemps, en tout cas.
On va vous en parler dans quelques instants de ces sorties. Petite pause musicale.
Ah oui, alors là, on va faire un sacré bond en arrière. Ah. 1940.
Ah oui.
Hommage à la féerie Disney, un thème mondialement connu, When You Wish Upon a Star de Pinocchio.
Pinocchio, eh oui. Ouais.
Signé
Oliver Wallace.
Pas du tout.
Pas du tout.
Lagerlind.
Lagerlind, oui, Lagerlind, bah oui, bien sûr. En plus, je suis impardonnable parce que j'ai la BO chez moi, tu penses bien.
Arrangé.
J'adore cette musique.
Et arrangé pour le coup, parce que c'est sur une interprétation donc, du Cincinnati Pops Orchestra dirigé par Eric Kunzel, arrangé par Carmen Dragon. Voilà.
Ouais, bah, très très bien.
Allez, on écoute cela, c'est vraiment magnifique.
Ah, oui.
Court mais dense. Allez, on vous le propose et on se retrouve juste après pour vous annoncer les sorties de la semaine. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir à partir de mercredi sur nos écrans?
J'ai entendu parler d'un blockbuster. On verra ça tout à l'heure.
Oui, je me demande d'ailleurs lequel.
Oui.
Allez, tout de suite, Pinocchio.
Et bien maintenant, il est l'heure, après cette super musique de Lagerlind pour Pinocchio, de vous parler des films qui vont sortir sur nos écrans ce mercredi 17 décembre 2025. Alors oui, vous en avez entendu parler, ce n'est plus un secret pour vous. C'est Avatar, troisième épisode qui sort, donc Avatar de feu et de cendre, je crois que c'est le titre de cet épisode.
Tout à fait.
Un film fleuve encore qui dure plus de 3 heures.
Oui, 3h30 même.
Ah bah dis donc, oui. Toujours signé James Cameron. avec bon, bah, des acteurs qu'on connaît bien, Sam Worthington, Stephen Lang. Voilà.
Ouais. À savoir que bon,
Sigourney Weaver aussi.
Oui, on était parti pour une sorte de trilogie d'Avatar.
Eh oui, mais en fait, ça sera plutôt.
Il semblerait qu'il y en aurait peut-être un ou deux de plus.
Ouais, je pense qu'on s'achemine plutôt sur deux autres, mais bon. Je pense que ça va dépendre du succès de celui-là, parce que, en fait, peut-être, je dis bien peut-être, commence un début de lassitude, finalement, sur cet univers Avatar, parce que, bon...
Alors, la lassitude, elle viendrait peut-être aussi du temps mis pour voir débarquer la suite, en fait.
Oui, après, bon, ça reste, je pense, un spectacle total.
Ah, hein, je pense, oui, bon, je pense.
On ira le voir quand même, hein, ouais.
Ah, je crois, oui.
Donc, Avatar 3 de feu et de cendre, évidemment, c'est le blockbuster, la grosse sortie. Mais enfin, on va le voir, il y a quand même d'autres sorties vraiment très intéressantes ce mercredi.
Eh bien, oui, avec un film américain de Max Walker Silverman, avec Josh O'Connor et Megan Fanny et Kylie Rice, c'est Rebulbing. Qui raconte l'histoire d'un homme qui reconstruit sa vie dans l'Ouest calciné, un film de cendres et de silence, porté donc par l'aura magnétique de Joss O'Connor. Voilà, donc ça sort mercredi. On espère, en tout cas, ce qui n'est pas plus prévu, en tout cas, dans certaines salles, mais on espère le voir sur grand écran.
Oui.
Parce que ça, c'est quand même un film très certainement à voir, voilà, pour pouvoir profiter des extérieurs qui sont en tout cas magnifiques. En tout cas, on les devine, ouais, sur la bande-annonce.
En tout cas, oui. Et puis, alors, en plus, c'est vrai que les paysages ont l'air sublimes. Et puis, il y a cette histoire avec la petite fille également. J'ai l'impression que la gamine est vraiment excellente actrice. Donc, il me tente de voir ce Rebulbing. Alors, on espère effectivement que les écrans vont nous proposer une taille de salle un peu plus conséquente, on va dire.
Ensuite, film français d'Alice Vial avec Jonathan Cohen, Magali Lépine, Blondeau, Florence Janas, c'est L'Ami idéal. Donc en fait, c'est un long métrage après son cours qui remonte à 7 ans et qui a été d'ailleurs césarisé au passage. Ça s'appelait Les Bigorneaux. Mmh. Et donc là, pour le coup, eh bien là, elle passe au format long, en ambitionnant de faire rimer romantisme et fantastique. Voilà, donc on ira aussi le voir pour vous donner un avis. Un autre film d'Illimour Palmesson, c'est L'amour qu'il nous reste, mais j'ai pas grand chose sur ce film à vous dire. Autre film, c'est un film de Vincent Munier, c'est Le Chant des Forêts, qui n'est autre qu'un documentaire.
Apparemment, c'est un très beau documentaire. Je sais pas si c'était tourné dans les forêts européennes, je sais plus exactement. Mais c'est quelqu'un de. C'est un spécialiste de la photographie animalière, ce réalisateur. Il avait fait un film avec une histoire de panthère, là, mince, le titre m'échappe, enfin voilà. Ça a l'air assez beau quand même, hein. Je pense que c'est à découvrir, Le Chant des Forêts, ouais.
Autre film, de Steve Hudson et Toby Jenkel, La Fabrique des Monstres.
Oui, je crois que c'est un. Je me demande si c'est pas un dessin animé, ça.
Oui, je me pose la question. Mais ouais. Je n'ai pas d'autres infos non plus. Film de Tobias Schwartz, le Heidi et le Lynx des montagnes.
Alors là, c'est un film d'animation qui a d'ailleurs été projeté en avant-première dimanche après-midi à Limoges. Et alors, d'ailleurs, je sais pas, visuellement, ça rappelle un peu le Heidi qu'on voyait à la télé dans les années 80, le Heidi du Isao Takahata. Et d'ailleurs, la bande-annonce de ce film, ils y avaient mis la chanson là de Heidi. Heidi, petite fille des montagnes. Voilà. Bon, mais ça a l'air charmant tout ça.
Un film très attendu aussi, enfin en tout cas on l'attend avec impatience, coproduit Brésil, France, Pays-Bas, de Kiber Mendoza Filho avec Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Candido, c'est l'agent secret. Donc après la résistance intime d'Aquarius et la fable pulp de Bakuro, eh bien Kleber Mendoza Filho change d'époque, mais pas de combat. Et donc l'agent secret plonge dans l'année 1977 au cœur d'un Brésil verrouillé par la dictature, un film somme vertigineux qui parle d'ailleurs d'espions, mais surtout de fantômes. Voilà.
Ouais. Ça a l'air vraiment tout à fait exceptionnel. Le film a fait l'événement à Cannes et donc là, bah voilà, c'est, je pense avec Avatar, c'est les deux films, alors dans les genres tout à fait différents, mais les deux films que j'attends le plus cette semaine. L'agent secret de Kleber Mendoza Filho. Même si alors, c'est vrai que j'ai été un peu plus réservé sur Aquarius. C'est vrai que j'avais pas été emballé plus que ça, mais bon, je suis quand même assez hypé par celui-ci en fait. L'agent secret.
Ok. Autre film franco-espagnol de José Luis Guérin, qui n'est autre que Histoire de la Bonne Vallée, l'histoire du quartier de Valbona, à Barcelone, encerclé par une autoroute, un fleuve et des voies ferrées, donc qui s'apparente à un village hors du temps. Et le réalisateur part à la rencontre de ses riverains au rythme des baignades, des chants catalans et des rumeurs qui courent. C'est un documentaire, là aussi. Et donc, ça sort mercredi. Autre film, Jones Sometimes, film espagnol de Sara Fantova, avec Olaya Coelho, Joséane Benguetzeta et Enea Artetex. Voilà.
Facile à dire, ça.
Non, c'est l'histoire d'une Basque, d'ailleurs. Jaune, bousculée par deux élans contradictoires dans ce moment en lui-même déstabilisant du passage à l'âge adulte. Voilà. Donc, mercredi, sur les écrans, tout cela en sortie nationale. Et pour en terminer, un film d'Alexandre Boucher, Cogis, Ensemble pour soigner la Terre. C'est peut-être un documentaire d'ailleurs, hein. Je ne pourrais pas en dire plus. Voilà, on a fait le tour.
Enfin, il y a quand même le choix.
12 sorties quand même. Hein.
Voilà. Ouais, film d'animation, documentaire, blockbuster avec Avatar. Et puis je pense, futur classique du cinéma brésilien, L'Agent Secret. Ça, c'est quand même, voilà, ça m'a l'air assez exceptionnel. Donc tout ça, c'est à partir de mercredi. Et puis bon, évidemment, Avatar va truster, je pense, les écrans, et pendant un certain nombre de semaines, à n'en pas douter. Eh bien, notre émission s'achève. On vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Et on vous parlera justement sans doute d'Avatar, de l'agent secret. Et on vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute des programmes de RTF, une excellente semaine dans les salles, bien sûr. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Laurent, également, on va peut-être se retrouver dans les salles de cinéma.
Bah, comme à l'habitude, hein,
oui,
je crois que...
Certainement.
Oui, on truste les fauteuils. Hein.
Voilà.
Allez, on vous donne rendez-vous, ben pourquoi pas dans la semaine aussi. Hein.
Oui.
Voilà,
on fait des autographes.
Voilà, on sera dans les salles, hein, de toute façon.
Oui.
Allez, bonne semaine, bonne toile, et à la semaine prochaine. Salut.
Ciao, ciao.